Je vous propose maintenant de vous donner les clés avec les éditions Terre Vivante. En fait, ce sont les clés de la maison écologique, une rencontre avec François Leroux. J'aurais aimé, François Leroux, que tout d'abord vous nous présentiez l'association Oikos, et donc après nous parlerons de l'ouvrage que vous venez donc de faire paraître.
Donc Oikos est une association et un organisme de formation qui a été créé en 1991 et dont l'objectif est de promouvoir l'éco-construction. Donc l'éco-construction, qu'est-ce que c'est ? C'est une approche un peu plus environnementale de l'acte de bâtir ou de rénover des bâtiments. Donc on s'adresse au grand public, aux scolaires notamment, aux particuliers aussi, et puis aux professionnels du bâtiment par le biais de formations.
D'accord.
Voilà, on est basé à Villeurbanne et on rayonne un peu sur toute la région Rhône-Alpes.
Donc cette association Oikos vient donc d'écrire un ouvrage qui s'appelle « Les clés de la maison écologique ». Et on peut dire que c'est un livre à lire absolument avant d'entreprendre des travaux de construction ou même de rénovation.
Alors disons que c'est un livre destiné aux personnes qui sont intéressées par le sujet, qui se posent des questions, qui ont un peu des doutes sur les solutions techniques à utiliser. C'est un livre intéressant pour aborder son projet. Mmh. C'est-à-dire qu'on va pouvoir obtenir dans ce livre des informations sur comment bien positionner son projet sur le terrain par rapport à la course du soleil, quel type de matériaux utiliser, quel type d'énergie. Ça fait vraiment le tour des préoccupations qu'on peut avoir quand on parle de qualité environnementale.
Et alors, ce qui me plaît bien, c'est que c'est un ouvrage d'initiation qui est simple et complet, et vous commencez par définir les concepts. Est-ce que vous pouvez le faire pour nous, HQE, maison passive, habitat sain, qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots ?
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes utilisés à l'heure actuelle dans le bâtiment pour désigner des bâtiments plus écologiques. Donc il y a des notions essentielles en termes de performance énergétique. On parle beaucoup de BBC ces derniers temps.
Ah, qu'est-ce que c'est ?
On appelle des bâtiments basse consommation.
BBC.
BBC, voilà. Donc c'est des bâtiments qui vont avoir tendance à se généraliser dans les années à venir. Et dans l'idée, c'est des bâtiments qui vont consommer beaucoup moins que des bâtiments produits à l'heure actuelle. C'est-à-dire à peu près 50% d'énergie en moins pour le chauffage dans ce type de bâtiment.
D'accord.
Maison passive, c'est un peu le même principe, sauf qu'on va au-delà. Une maison passive va fonctionner, va être chauffée sans système de chauffage, en fait. Ça paraît paradoxal, mais c'est uniquement par la très bonne isolation de la maison, par un système de ventilation très performant aussi, qu'on arrive à éviter d'avoir trop de pertes de chaleur dans ces maisons. Et du coup, on n'a pas besoin de système de chauffage au sens classique du terme.
Parce qu'elle est tellement bien isolée, finalement, et rafraîchie de façon naturelle, vous allez peut-être nous donner quelques détails après, que donc on dit qu'elle est passive, elle ne nécessite pas de chauffage.
Voilà, elle est passive au sens où on n'utilise pas de système de chauffage classique. Voilà.
D'accord.
On n'a pas de chaudière à l'intérieur de ce type de bâtiment. Pour y arriver, donc je vous parlais de l'isolation, donc c'est vraiment primordial. Aussi bien au niveau de la toiture que des murs ou du sol. Il faut aussi régler le problème de l'étanchéité à l'air dans ce type de bâtiment.
Oui.
C'est-à-dire que quand vous avez une maison classique, en fait, vous avez pas mal d'air qui passe à certains points faibles, comme les menuiseries, par exemple. Donc c'est des fuites d'air, des fuites de chaleur qui s'effectuent par ces endroits. Et une maison passive, elle, est très étanche à l'air, ce qui fait qu'on évite d'avoir trop de déperditions par rapport à ça. Donc un système de ventilation très performant, c'est ce qu'on appelle une ventilation double flux. Donc c'est un système de ventilation qui récupère la chaleur de l'air qu'on extrait de la maison pour donner cette chaleur à l'air qu'on fait rentrer, en fait. Et donc on récupère comme ça 80-90% de la chaleur. Voilà, donc alors ça ne veut pas forcément dire que ce soit un bâtiment thermos, on va dire, puisque je vous ai dit que c'était étanche à l'air. Mais c'est quand même très confortable pour les occupants. On n'est pas dans des ambiances malsaines non plus. Puisque le système de ventilation en fait, permet de renouveler l'air et d'avoir un air de qualité.
De ne pas être confiné. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites au départ, il faut se poser la question, est-ce que c'est un projet cohérent ce que je veux faire ?
Alors effectivement, quand on parle d'un projet immobilier, il y a vraiment toute une série de paramètres à prendre en compte, notamment l'emplacement de ce projet. C'est vrai qu'on pourrait éventuellement construire des maisons avec des matériaux écologiques qui consomment très peu d'énergie pour leur chauffage, mais si elles sont implantées au milieu des bois, loin de tout, le bilan carbone ne va pas être terrible, puisqu'il faudra prendre sa voiture pour se déplacer quotidiennement pour le travail, amener les enfants à l'école, faire ses courses. Donc c'est un tout, en fait, un bâtiment éco-construit n'est valable que si on a déjà réfléchi au niveau de l'urbanisme, en fait, avant.
C'est une réflexion globale. On ne fait pas un
Voilà.
bâtiment écologique pour se faire plaisir. Il faut que ça corresponde à une vraie démarche développement
Voilà.
durable.
Et puis, le bâtiment peut être écologique, mais les habitudes de vie des occupants ne pas forcément être en cohérence avec ce bâtiment. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple une maison réalisée par un promoteur ou un constructeur de maison individuelle, donc qui serait passive ou très performante, si les occupants de cette maison ne sont pas au courant des spécificités techniques de ce bâtiment, bah, leur comportement quotidien risque parfois d'aller à l'encontre de ce qu'on a souhaité au départ. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas sensibilisés à tout ça, ils vont allumer les lumières n'importe quand,
Bien sûr.
consommer énormément d'électricité, donc ça ne sera pas forcément très cohérent. Donc il faut aussi que les occupants soient informés, sensibilisés par rapport à tout ça.
Tout à fait. Est-ce qu'on peut poser la question aujourd'hui, construire ou rénover une maison de façon écologique, ça coûte plus cher?
Alors, en général, oui, quand même, il y a un surcoût par rapport à des projets basiques, on va dire. Mais tout dépend du niveau de performance sur lequel on se situe, tout dépend des matériaux qu'on utilise, des systèmes d'énergie renouvelable qu'on intègre à l'intérieur du bâti. Donc finalement, il n'y a pas de règle. En général, il y a un léger surcoût qui peut être entre 5 et 15%, comme il peut y avoir des projets aussi qui soient à coût équivalent, en fait.
Mais il faut dire aussi qu'après, au point de vue dépenses énergétiques, on va s'y retrouver sur les années suivantes.
Voilà, après, il faut raisonner en coût global, c'est-à-dire entre ce que vous allez investir pour votre projet lors de sa construction ou de sa rénovation, et puis tout l'argent que vous allez économiser par la suite en termes d'économie d'énergie.
Bien sûr.
Voilà. Enfin, le problème, c'est que sur certains projets, on a des coûts d'investissement qui sont tels qu'on n'arrivera jamais à avoir un retour sur l'investissement, quoi.
Quand on
En
rénove une
termes.
très vieille maison, par exemple, on peut imaginer une maison mal exposée.
Non, enfin, c'est pas forcément sur une rénovation, mais si vous utilisez par exemple des systèmes de. Enfin, prenons l'exemple d'une cuve de récupération d'eau de pluie pour alimenter l'intégralité d'un bâtiment, enfin, les chasses d'eau des WC par exemple, c'est quand même des coûts assez importants au niveau des matériels qui sont pas forcément toujours justifiés en fonction de l'endroit où on se trouve, quoi.
Bien
Ça sera
sûr.
peut-être justifié si on est dans une région un peu sèche avec des problèmes d'approvisionnement en eau, mais sur une région où il pleut régulièrement, bah, l'intérêt sera peut-être pas forcément évident, quoi.
Donc déjà, il faut se poser des bonnes questions, réfléchir de façon globale comme vous nous l'avez expliqué. Qu'est-ce qui est important ensuite, si on doit construire l'orientation de la maison et sa conception générale?
Voilà, donc c'est tout ce qu'on appelle la conception bioclimatique, c'est-à-dire insérer le bâtiment correctement par rapport à l'environnement local. Donc la conception bioclimatique, finalement, s'inspire de ce qui était pratiqué auparavant par nos ancêtres. C'est juste du bon sens, en fait, par rapport à l'implantation du bâti. C'est-à-dire que dans nos régions, on va plutôt chercher à s'ouvrir au sud en hiver pour laisser rentrer l'énergie du soleil. Et puis, on va essayer de se protéger des vents dominants, éviter que le soleil rentre trop dans la maison en été pour éviter d'avoir trop chaud. Donc finalement, c'est adapter l'architecture du projet par rapport à tous ces facteurs climatiques qu'on peut avoir.
D'accord. Le choix des matériaux ensuite est important.
Voilà, donc ça vient après, effectivement. Donc là, en fonction de ce qu'on va souhaiter avoir comme ambiance à l'intérieur du bâti, on aura des solutions assez vastes, en fait, hein. On a un panel de solutions techniques à disposition qui est très important. Donc quand on parle d'éco-matériaux, c'est un terme qui est un petit peu vague, un petit peu flou. Quand on évoque les éco-matériaux, en fait, on fait référence à des matériaux qui n'ont pas un impact trop important sur l'environnement et puis sur la santé aussi. Il y a l'aspect sanitaire qui est très important. Donc c'est des matériaux qui, au niveau des matières premières qui sont utilisées pour les fabriquer, ne vont pas consommer trop d'énergie. Généralement, c'est des matériaux qui sont d'origine renouvelable. Hein, toutes les fibres végétales utilisées en isolation, notamment le chanvre, la paille. Et puis, donc, c'est des matériaux qui, au niveau de leur impact sur la santé des personnes, ne vont pas être nocifs.
Et si
Contrairement à
possible,
certains matériaux.
oui. Et si possible, ils ne viennent pas de trop loin parce qu'il y a un coût de transport énergétique.
Voilà, le plus local
Aussi.
possible, en fait.
Après, il faut choisir des sources d'énergie pour le chauffage, pour tout le reste.
Voilà, alors là aussi c'est pareil, il y a un panel de solutions extrêmement important. Donc les énergies renouvelables là, qui se développent beaucoup ces derniers temps avec toute la filière solaire thermique pour faire l'eau chaude sanitaire ou pour faire du chauffage aussi. Et puis le solaire photovoltaïque pour produire de l'électricité. Donc là aussi avec des offres qui se développent de façon très importante ces derniers temps, puisque EDF a l'obligation de rachat des kilowattheures d'électricité produits par ce type d'installation. Donc vous avez des commerciaux qui démarchent les particuliers pour ce type d'installation. Après, il faut bien se méfier quand même quand on a des offres commerciales proposées, bien se renseigner notamment auprès des espaces info énergie, les EIE qui sont un réseau au niveau national d'associations qui peuvent vous renseigner sur l'intérêt de ces techniques, de ces technologies. Voilà, puis après, bon, vous avez aussi le développement du bois, hein, qui est important dans certaines régions. Le bois énergie, donc, qui se présente soit sous forme de bûches, de granulés ou de
Oui.
plaquettes. Voilà, donc au niveau énergie, là aussi, il y a vraiment pas mal de solutions techniques
Oui.
intéressantes,
Et
dont
du coup,
l'intérêt principal est de ne pas rejeter de CO2, quoi. Ou en tout
oui.
cas très peu par rapport à des solutions conventionnelles.
Du côté de la gestion de l'eau.
Oui, alors, bah, pareil, au niveau de l'eau, c'est un petit peu comme l'énergie, il y a des choses très peu cher à investir. Pour l'énergie, donc c'est par exemple les lampes à économie d'énergie ou les LED, hein, qui consomment beaucoup moins d'électricité que les ampoules à incandescence. Pour l'eau, c'est des petits appareils comme les mousseurs, comme les économiseurs à installer sur les embouts de robinet.
Oui.
C'est des pommeaux de douche économes aussi, qui permettent d'économiser jusqu'à 50% d'eau pour un confort identique. Hein.
Oui.
Et après, on a des solutions un peu plus importantes au niveau budgétaire, qui sont les systèmes de récupération d'eau de pluie, qui permettent d'alimenter les chasses d'eau des WC, d'utiliser l'eau pour l'arrosage du jardin, ce type d'installation. Voilà, mais c'est quand même beaucoup plus lourd en termes d'investissement, et c'est pas forcément toujours adapté
C'est ce que vous disiez.
à tous les cas de figure. Voilà.
Donc le résultat, on se retrouve avec des maisons saines, avec des matériaux sains et donc économes aussi en énergie.
Voilà, l'idée c'est d'avoir un projet qui soit bien cohérent par rapport à tout ça, d'avoir à la fois un bâtiment économe en énergie, donc qui va éviter de rejeter trop de CO2 dans l'atmosphère, et puis d'avoir un bâtiment qui soit adapté à l'usage qu'on souhaite en faire et à la qualité de vie des occupants. Donc c'est tout ce qui est aspect sain des matériaux, au niveau des peintures notamment, avoir une idée assez précise des pollutions qu'on peut retrouver à l'intérieur d'un logement et puis éviter d'utiliser des matériaux qui seraient susceptibles de les dégager.
C'est vrai que c'est assez complexe, et c'est pour ça que votre ouvrage, Les clés de la maison écologique, est extrêmement utile pour quelqu'un qui veut se lancer dans la construction ou la rénovation de l'habitat en respectant la planète. Est-ce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a un engouement quand même? Je pense que tout le monde ne peut qu'être motivé par ces arguments.
Oui, alors effectivement, hein, par rapport au Grenelle de l'environnement notamment, il y a eu pas mal de choses d'entreprises depuis. En ce qui concerne les aspects énergétiques, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va aller de plus en plus vers des bâtiments basse consommation. Ça va devenir la norme à très court terme, à l'horizon 2012. À plus moyen terme, on sera sur les niveaux de maisons passives. Donc le secteur du bâtiment va évoluer dans ce sens-là dans les années à venir. On va plus avoir des bâtiments comme on les connaît à l'heure actuelle, quoi. Et puis donc il y a un effort important à entreprendre sur les bâtiments qui existent déjà et qui sont pour certains d'entre eux de véritables passoires au niveau énergétique. Donc là aussi, il y a d'énormes travaux à engager dans les années à venir qui vont générer quand même pas mal d'emplois et d'activités économiques. Et pour ce qui concerne les particuliers, on sent qu'il y a une réelle sensibilisation de ce public. Ils sont de plus en plus informés, au niveau des médias notamment, ce qui fait que bah, ils sont beaucoup plus exigeants par rapport aux solutions techniques qu'on peut leur proposer. Enfin, qu'on peut retrouver dans le commerce, en tout cas. Des fois, ils sont même plus au courant que les professionnels qui interviennent pour eux sur des chantiers.